Dans la prière, on a exprimé, en rapport avec ce cantique, cette interrogation qui peut bien être la nôtre à chacun et tout au long de notre chemin, quant à la réalité de pratique intérieure de ce que nous pouvons dire, proclamer. Si je ne me trompe pas, la deuxième strophe avait un texte un peu différent dans l'ancien cantique, était beaucoup plus affirmatif. Réchauffé par ta flamme, je pourrais supporter fatigue, épreuve ou blâme. Il me semble que dans l'ancien cantique, c'était « je puis tout supporter ». C'était plus affirmatique. Là, c'est quand même un futur. C'est quelque chose d'affirmatif. C'est pas « je pourrais », un conditionnel. Et pourtant, dans la réalisation de ce qui est exprimé là, il y a à la fois la foi est affirmative, et la réalité de notre vie pourrait nous amener à mettre un conditionnel, c'est-à-dire à la condition que je sois réchauffé par ta flamme, je pourrais supporter fatigue, épreuve ou blâme. C'est bien ça la réalité de notre vie. Ce que Seigneur place devant nous, c'est que ce soit une autre réalité, c'est-à-dire que nous réalisions ces choses-là en étant réchauffés par sa flamme, en étant appuyés sur lui, en ayant tout lâché, ce qui nous empêche de nous appuyer sur lui. Alors, il y a un verset que j'arrive plus à trouver, un frère pourra peut-être le souffler, où il est parlé de ne pas mépriser le temps des petites choses. Et je voudrais juste dire, au début d'Esdras, on a un temps de petites choses dans ce livre d'Esdras, dans le livre de Néhémie qui suit. Au chapitre 1er d'abord, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que fût accomplie la parole d'Éternel dite par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et il fit une proclamation dans tout son royaume et la publia aussi par écrit, disant « Ainsi dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem qui est en Juda, et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, lui et Dieu, à Jérusalem. Et celui qui est de reste dans tous les lieux où chacun séjourne, que les hommes du lieu lui viennent en aide, avec de l'argent, avec de l'or, avec des biens, avec du bétail, outre les offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. » On s'arrête d'abord là un peu. Le début de ce livre est remarquable parce qu'on voit que c'est Dieu qui agit. Il y a une date. Si on va dans le livre Daniel, on voit que cette date dont Jérémie avait annoncé déjà, les 70 semaines. Et puis on voit la réalisation qu'on est juste sur la fin du livre de Daniel. La dernière vision de Daniel, c'est la deuxième année de Cyrus. Et Daniel 9 nous rappelle, on peut rappeler, cette prière de Daniel où il implore l'Éternel qu'il se souvienne de son peuple. Confession et un appel aux promesses de Dieu. Et là, il nous est dit, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que fût accomplie la parole d'Éternel dite par la bouche de Jérémie. Jérémie avait eu cette annonce de ses 70 semaines, qui apparaît sous trois formes un peu différentes dans le livre de Jérémie, et qui concerne en particulier cette réalisation-là. Afin que fût accompli. Et qu'est-ce qui se passe afin qu'on fût accompli? L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. C'est directement l'action de Dieu dans ce roi des nations qui, dans un sens, connaissait pas l'Éternel, connaissait peu l'Éternel. On voit que plus loin, il dit « L'Éternel, le Dieu des cieux. » Le Dieu des cieux, c'est quelque chose, c'est une manière de parler qui montre que Dieu ne lui est pas étranger, mais qu'il n'y a pas, au fond, de relation, d'intimité de Cyrus avec l'Éternel. Pourtant, il utilise le nom de l'Éternel, qui est bien le nom par lequel, qui est propre à Israël. On a bien des passages, où il y a un passage, quelques pages avant, dans le livre des Chroniques, ça doit être dans le deuxième livre des Chroniques, en rapport avec Josaphat, où je vois justement bien cette distinction. De Chroniques 18, quand Josaphat est allé à la guerre avec Akab, Akab s'étant déguisé, et tout le monde voit, les adversaires voient Josaphat comme le roi, pensant que c'est Akab. Verset 31, il arriva que quand les chefs des chars virent Josaphat, ils dirent « C'est le roi d'Israël » et ils l'entourèrent pour combattre contre lui. Et Josaphat cria et l'Éternel le secourut et Dieu les porta à s'éloigner de lui. L'Éternel cria et Josaphat cria et c'est l'Éternel, Dieu sous son nom de relation avec Israël, qui intervient pour le secourir, mais par contre ce n'est pas l'Éternel qui porte les ennemis à s'éloigner, c'est Dieu qui porte l'énergie, les ennemis à s'éloigner. On voit bien cette distinction, l'Éternel en rapport avec son peuple, Dieu en rapport avec toute créature. Là, l'Éternel, le Dieu des cieux. Mais c'est justement l'Éternel qui a réveillé l'esprit de Cyrus. Ce n'est pas Cyrus qui a pris conscience de quelque chose par lui-même, qui a appris par lui-même ou par d'autres autour de lui, c'est l'Éternel qui a travaillé dans son esprit pour lui faire prendre conscience que dans la position qu'il a, parce que Dieu la lui a donnée, il a maintenant quelque chose à faire de la part de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour Dieu lui-même. Et alors on a cet écrit qu'il publie. Il rappelle que tous les royaumes de la terre, il les a reçus de Dieu. Si on retourne sur Nebuchadnezzar, on voit ce même cheminement. Comment Nebuchadnezzar, de l'orgueil de l'homme sans Dieu, est amené à s'incliner, à se courber, à s'humilier et à reconnaître l'Éternel, le Dieu des cieux. Il m'a donné tout le royaume de la terre, il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Et alors on a cette instruction, cet ordre qui est donné, s'adressant à tous les Israélites. Et qui d'entre vous, quel qu'il soit, est de son peuple ? Cela concernait tout d'Israélites. Chacun du peuple d'Israël pouvait se sentir concerné par cet édit et par ces instructions venues de Dieu. Qu'il monte à Jérusalem, qui est en Juda, et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Lui est Dieu. Quand on voit dans la suite et ailleurs bien d'autres choses autour de ce qui est c'est bâtir une maison qui est à Jérusalem. La formulation de Cyrus est au fond assez vague, en ce sens qu'on n'a pas vraiment l'impression qu'il est conscient qu'il s'agit au fond, du point de vue de l'édifice, de rebâtir une maison. Il donne une instruction qu'il est, il m'a chargé de bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Tout Israélite qui entendait ça, il corrigeait automatiquement. Non, pas bâtir une maison, rebâtir là. Maison. Là, la seule maison qui compte. Et donc, tout Israélite est concerné. Alors, le paragraphe suivant, « Alors se levèrent les chefs des pères de Juda et de Benjamin, et les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu avait réveillé l'esprit, afin de monter pour bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Il se lève des hommes, tous ceux dont Dieu avait réveillé l'esprit. » Il n'est pas dit « tous les Israélites », il est dit « tous ceux dont Dieu avait réveillé l'esprit ». Dieu choisit, Dieu décide, il n'a pas de compte à rendre. Par contre, tous ceux dont Dieu avait réveillé l'esprit, leur esprit était réveillé, il n'y avait pas d'hésitation possible. Et alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se lève pour aller, pour bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Pour l'Israélite, les choses étaient claires. Et la formulation qui était floue pour Cyrus est très nette de la part concernant sur le peuple de l'Éternel. Alors, je saute plus loin. On a les détails là tout de suite de ce qu'ils emmènent, qu'ils ramènent à Jérusalem, des objets concernant le temple. On a au chapitre 2 cette liste de ceux qui reviennent avec des noms, chacun est connu par son nom, avec les nombres aussi, combien de personnes. Et on voit que toute la congrégation, verset 64, réunie, était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, etc. 42 300, ça paraît beaucoup, mais quand on voit que du temps de David, Jérusalem faisait 300 000 personnes à peu près. Quand à la sortie d'Égypte, on parle de millions de personnes. C'est un tout petit nombre. Le jour des petites choses. Et alors au chapitre 3, quand arriva le septième mois, les fils d'Israël étant dans leur ville, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Et Jéchua, fils de Jotsadak, et ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, et ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Et ils établirent l'autel sur son emplacement, car la terreur des peuples de ces contrées était sur eux, et ils offrirent dessus des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Et ils firent la fête des tabernacles selon ce qui est écrit, et les holocaustes, jour par jour, selon leur nombre, selon l'ordonnance, le service de chaque jour en son jour, et après cela, l'holocauste continuel et celui des nouvelles lunes et de tous les jours solennels de l'Éternel qui étaient sanctifiés, et les holocaustes de tous ceux qui offraient une offrande volontaire. Depuis le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel. Mais les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Et ils donnèrent de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres et des boissons et de l'huile, aux Sidoniens et aux Tyriens, pour amener du Liban des bois de cèdre à la mer de Jaffo, suivant l'autorisation qu'ils avaient de Cyrus, roi de Perse. Arrivés dans le pays, il nous est dit là, les fils d'Israël étaient dans leur ville. La suite du livre d'Ezra, le livre de Néhémie, nous montre que oui, ils étaient dans leur ville, mais dispersés au milieu des nations qui habitaient, qui occupaient le pays, qui avaient été installés dans le pays par Nebuchadnezzar et Sanchérib avant lui. Pas un mélange, mais mêlés, habitant au milieu d'eux. Dans leur ville, oui, mais pas seuls dans leur ville. Et là, le septième mois, il s'assemble avec cette belle expression « comme un seul homme ». Ils avaient fait ce voyage pour revenir. Ils avaient quitté, ils étaient peut-être bien installés en Assyrie, en Mésopotamie. Mais non, ils avaient tout laissé, ce qu'ils avaient là-bas, et pour s'engager dans ce voyage et venir dans ce pays où la suite de ces deux livres montre comment les choses pouvaient être difficiles. Et il s'assemble là, au septième mois, à Jérusalem. Alors ça m'a toujours frappé, et je n'ai pas de réponse à cette question, je la relève juste en passant, c'est qu'il nous est parlé directement de la fête des tabernacles. Il ne nous est jamais parlé du grand jour des propitiations. Ce grand jour des propitiations, ça m'a aussi une question sur laquelle m'a toujours frappé. Le grand jour des propitiations n'était pas un de ces trois jours où l'Israélite devait venir à Jérusalem obligatoirement. Trois fois l'an, tout homme devait venir à Jérusalem, mais pas à la Pâque, à la Pentecôte et à la fête des tabernacles, pas au grand jour des propitiations. Un bout de réponse peut-être, en ce sens que le vrai grand jour des propitiations, ce n'était pas cette fête qui se répétait tous les ans, c'est l'œuvre du Seigneur, qui est unique. Il n'y a au fond, dans un sens, à l'inverse de la Pâque, où il y a une seule Pâque et des anniversaires après, il n'y a au fond qu'un seul jour des propitiations, et avant des jours qu'il annonce et qu'il annonce et qu'il annonce chaque année. Mais la réalisation du grand jour des propitiations, c'est l'œuvre du Seigneur. Là, il est parlé du premier jour, où il commence, il se rassemble, ils reconstruisent l'autel sur son emplacement, on reviendra, et puis, un peu plus loin, il nous est dit, je retrouve la ligne, verset 6, « Depuis le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel. » C'est le premier jour qui marque la reprise de ces holocaustes. Holocauste, sacrifice entièrement pour Dieu, qui nous parle de la louange, qui nous parle de l'adoration. Et les holocaustes de chaque jour, du matin, du soir, des jours, la liste nous est donnée. Qui commence donc à ce premier jour du septième mois. Et verset 3, ils rétablirent pour cela l'autel, avec ce petit détail, qui n'est pas un détail, sur son emplacement. Ils rebâtirent l'autel. On imagine cette ville de Jérusalem, on ne sait pas trop, est-ce qu'il y avait des gens qui y habitaient, dans des bouts de cette ville, qui étaient en grande partie probablement en ruine. Les ruines du temple, à quoi elles ressemblaient, on ne l'imagine pas trop. En tout cas, ils avaient ce qu'il fallait comme élément pour retrouver cet emplacement, ils l'ont retrouvé. Et c'est là et nulle part ailleurs qu'ils ont reconstruit cet autel, l'autel de l'Éternel sur son emplacement, là où il devait être. Avec la petite mention qui nous est donnée, nouveau perdu la ligne, et bâtir l'autel, oui, voilà. Non, j'ai nouveau perdu la ligne. Que les fondations, c'est plus loin. Verset 6 au milieu, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Les fondements, on ne parle même pas des murs. Donc on imagine une espèce de terrain vague avec des bouts de murs à droite à gauche, tout plus ou moins rasé jusqu'au sol, et là-dessus une vague trace qui leur permet de reconstruire l'autel sur l'emplacement. Et là, au milieu de ce terrain vague, il y a là maintenant cet autel sur lequel ils offrent les holocaustes. Un jour de petites choses. Un jour de petites choses et qui pourtant a toute sa place, toute sa valeur, toute son importance. Au verset 3, au milieu, il nous est dit « La terreur des peuples de ces contrées était sur eux. » Ça donne une idée de l'atmosphère. Une ville en ruine, sans muraille, cet hôtel au milieu de rien du tout, ce peuple revenu dans un pays que pour la plupart ils ne connaissaient pas, ils étaient nés en captivité. Et puis voilà, pourtant, il y a là ce que Dieu donne, pourquoi Dieu donne les moyens, dernier verset du paragraphe, ils vont venir du bois du Liban, suivant l'autorisation qu'ils avaient de Cyrus, roi de Perse. Oui, ils avaient une autorisation du roi, autorisation que Cyrus avait donnée, on peut dire, sur ordre de Dieu. Et voilà l'appui sur lequel ils pouvaient s'appuyer. Leur fondement, c'était bien que tout cela, c'était Dieu qui l'avait donné. Ce n'était pas une imagination de l'homme, une organisation de l'homme. Au verset 8, la seconde année de leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, et Joshua, fils de Jotsadak, et le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les lévites, Et tous ceux qui étaient venus de la captivité à Jérusalem commencèrent, et ils établirent les Lévites depuis l'âge de 20 ans et au-dessus pour surveiller l'œuvre de la maison de l'Éternel. Alors Jéchua et ses fils et ses frères, Kadmiel et ses fils, les fils de Juda, se tinrent là comme un seul homme pour surveiller ceux qui faisaient l'ouvrage dans la maison de Dieu, et aussi le fils de Henadab, leurs fils et leurs frères, les Lévites. Et lorsque ceux qui bâtissaient et posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs revêtus de leurs robes, avec des trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec des cymbales pour louer l'Éternel selon les directions de David, roi d'Israël. Et ils se répondaient en louant et en célébrant l'Éternel, car il est bon, car sa bonté envers Israël demeure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Et beaucoup d'entre les sacrificateurs et d'entre les Lévites et d'entre les chefs des pères, les vieillards qui avaient vu la première maison, pleuraient à haute voix lorsque les fondements de cette maison furent posés devant leurs yeux. Et beaucoup poussaient des cris de joie en élevant leur voix. Et le peuple ne pouvait distinguer entre le bruit des cris de joie et la voix du peuple qui pleurait, car le peuple poussait de grands cris et le bruit s'entendait au loin. C'est des passages que nous connaissons bien et qu'on aime lire, il faut bien dire. Il y a à la fois ce qui est résumé dans les derniers versets, un arrière-plan ou un premier plan, selon comment on le lit, de tristesse et en même temps, il y a une joie. C'est une réalité qu'ont vécu ces Israélites, c'est une réalité que nous pouvons vivre aujourd'hui. Il y a des raisons de tristesse, il y a des raisons de joie. Et voilà, ils sont là maintenant la seconde année. C'est très peu de temps après. Au second mois, on était la première année au septième mois. Donc c'est 5 mois plus tard, 4 mois plus tard, c'est le début du second mois. Ils se rassemblent et on voit qu'on a Zorobabel, celui qui est le gouverneur, Jéchua, le souverain sacrificateur, le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux qui étaient venus de la captivité à Jérusalem. Voilà. Tout le monde est là. Toutes les catégories du peuple sont là. Et chacun à sa place. Les Lévites, au-dessus de 20 ans, pour surveiller l'œuvre. Après, d'autres sont nommés. Il y a ceux qui bâtissent, il y a ceux qui sont là, les sacrificateurs sont déjà nommés, ils sont renommés, mais verset 10 au milieu, avec des trompettes, les Lévites, fils d'Azaph, avec des cymbales, et là on a encore une petite précision, pour louer l'Éternel, selon les directions de David, roi d'Israël. Ça me fait penser à un chapitre, des chapitres, je crois que c'est 24 et suivant, du premier livre des Chroniques, où il y a toute la description des classes de sacrificateurs, comme David les a organisées. C'est des chapitres qu'on lit, je ne me souviens pas les avoir entendus lire dans une réunion. C'est vrai que c'est quelque chose qui ne nous est pas vraiment concret pour nous, mais en les lisant, j'avais retenu une chose, comment tout avait été pensé, organisé par David, de la part de Dieu, pour un fonctionnement harmonieux. C'était, en suivant cette organisation, les choses fonctionnaient. Dieu avait donné le cadre où ça fonctionnait. Et David est présenté à différentes occasions, à travers tous les psaumes qu'il a composés. Il y a aussi une référence aux instruments de musique qu'il a inventés pour la louange. Voilà, c'est lui qui est la référence pour louer l'Éternel selon les directions de David, roi d'Israël. Un instrument que Dieu avait donné en son temps pour donner au peuple d'Israël les éléments de la louange. Et le contenu, le thème, c'est celui qu'on retrouve à travers bien des psaumes, car il est bon, car sa bonté envers Israël demeure à toujours. Il est bon, sa bonté demeure à toujours. C'est quelque chose que nous pouvons nous rappeler aussi toujours. Il est bon, que ce soit pour Israël, que ce soit pour nous, aujourd'hui, que ce soit pour tous les temps, la bonté de l'Éternel est un sujet qui est insondable et qui est toujours dans un sens d'actualité. Se rappeler de la bonté de Dieu élève nos yeux vers le ciel, vers lui. Nous rappeler sa bonté, ça nous rappelle d'où il nous a cherchés, comment il nous a cherchés. Et là, on est 4 mois après le début du chapitre, l'autel est là. Ça fait 4 mois qu'il y a l'holocauste continuel, l'holocauste des nouvelles lunes, toutes ces choses qui se déroulent. Il y a eu une Pâque, elle ne nous est pas mentionnée, mais il y a eu une Pâque entre-temps. Et sinon, autour, c'est toujours ce même terrain vague, sauf que maintenant, ils sont là pour une prochaine étape, construire les fondements. Construire les fondements. Quand on voit des fondations d'une maison, on a quand même un peu de peine à se représenter la maison finie. Des tranchées dans le sol, des pierres en place, on voit qu'il y a des coins par-ci, des coins par-là, mais au fond, on ne voit même pas encore où il y aura des portes, parce qu'il y a aussi des fondations sous les portes. Et voilà, dans tous ces Juifs israélites qui étaient là autour, qui pouvait s'imaginer cette maison, si ce n'est beaucoup d'entre les sacrificateurs, d'entre les lévites, d'entre les chefs des pères, les vieillards qui avaient vu la première maison, voilà, eux pouvaient se souvenir de quelque chose. 70 ans, c'est beaucoup. Ils avaient quel âge quand ils avaient vu cette maison la dernière fois? Ils n'étaient pas vieux. Mais pourtant, il y avait un souvenir. Et là, ils voient des fondations à ras de sol. Mais il y a là, en même temps, dans ces fondations, la promesse de l'édifice qui va se construire. Alors, je ne vais pas lire beaucoup plus. Je voudrais juste... chapitre 4. Le cœur du chapitre 4, c'est la réaction de ceux qui, au début du chapitre, sont parlés comme les ennemis qui étaient autour d'eux. La terreur des peuples de ces contrées était sur eux. Là, ils passent à l'action et le chantier s'arrête. Verset 24 du chapitre 4. Alors le travail de la maison de Dieu qui est à Jérusalem cessa et il fut arrêté jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Le chapitre 5 commence, et les prophètes, Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom de Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Jéhatiel, et Joshua, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu qui est à Jérusalem, et avec eux les prophètes de Dieu qui les assistaient. C'est le livre d'Agé nous décrit ce basculement entre ce chantier arrêté, ce découragement, cette distraction par les maisons personnelles, individuelles, les affaires privées, et puis le message d'Agé. Et un des quelques prophètes de la parole qui a vu une réponse du peuple à sa prophétie, qui a vu l'encouragement que ces paroles d'avertissement, ces paroles d'appel ont eu un effet, et il est dit là, les prophètes sont avec pour construire. C'est un beau chapitre, des beaux chapitres, ce livre d'Agé, où on se remet à l'ouvrage. C'est pas pour autant que la suite va se passer sans haut et sans bas. Le livre d'Agé, le livre d'Esdras, le livre d'Éhémie, nous montre ces hauts et ces bas, qui sont justement ces caractéristiques de ces temps de petites choses. Les temps de petites choses où la marche est mêlée d'élan de foi, de marche par la foi, d'élan vers Dieu, de désir de marcher avec lui, de le suivre le Seigneur, si je transpose la manière de parler pour ce qui est pour nous, suivre le Seigneur, lui être fidèle, et puis... les découragements d'un côté, nos propres pensées, nos raisonnements, de l'autre côté, qui plombent, si on peut dire, cette marche par la foi. Voilà, c'est juste ces quelques pensées que me mettait ce qu'on a chanté, et puis où il ne demeure pas moins que l'amour du Seigneur est la ressource à laquelle nous pouvons et nous devons toujours nous rattacher par la foi.
Agé, chapitre 2, les 5 premiers versets. Au 7e mois, le 21e jour du mois, la parole de l'Éternel vint à Agé, le prophète, disant: Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et au reste du peuple, disant: Qui est de reste parmi vous, qui ait vu cette maison dans sa première gloire, et comment la voyez-vous maintenant? N'est-elle pas comme rien à vos yeux? Et maintenant, sois fort, Zorobabel, dit l'Éternel, et sois fort, Joshua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur, et soyez fort, vous, tout le peuple du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. La parole selon laquelle j'ai fait alliance avec vous, lorsque vous sortîtes d'Égypte, et mon esprit demeure au milieu de vous, ne craignez pas. On peut peut-être aussi rajouter le verset 14 du chapitre 1er. Je suis avec vous, dit l'Éternel.
Les passages qu'on a lus sont effectivement toujours des passages qu'on aime lire. C'était un temps de réveil après les 70 ans de captivité du peuple d'Israël. Et ils nous font penser, certainement dans une certaine mesure, à ce qui a eu lieu au 19e siècle dans ce temps de réveil, qui a commencé par effectivement bien peu de choses. 4 frères à Dublin. Mais le verset qu'on a cité dans la prière tout à l'heure, c'était un autre temps. On peut simplement lire ce verset en Jérémie, chapitre 2. Et au verset 13. Car mon peuple a fait deux maux, ils m'ont abandonné, moi la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie a vécu les derniers jours des rois de Juda, jusqu'à ce que le peuple d'Israël soit amené en captivité. C'était un temps certainement de tristesse, et premièrement pour le cœur de Dieu. Et on voit dans tout ce livre cet échange qu'il y a entre Jérémie et l'Éternel, et où l'Éternel montre ce qu'a fait son peuple. Mais pour Jérémie, il y avait quand même deux ressources que j'aimerais simplement présenter. On les retrouve, première ressource au chapitre 14 et au verset 7. Éternel, si nos iniquités rendent témoignage contre nous, agis à cause de ton nom. Car nos infidélités sont multipliées, nous avons péché contre toi. Attends d'Israël celui qui le sauve au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui se détourne pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un homme fort qui ne peut sauver? Toutefois, tu es au milieu de nous, ô Éternel, et nous sommes appelés de ton nom, ne nous délaisse pas. Et puis, pour la deuxième ressource, ce passage au chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 15. « Tu le sais, ô Éternel, souviens-toi de moi et visite-moi. » Un peu plus loin. « Selon la lenteur de ta colère, ne m'enlève pas. Sache que pour toi, je porte l'opprobre. Tes paroles se sont-elles trouvées ? Je les ai mangées, et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, ô Éternel, Dieu des armées. » Jérémie était seul dans ce temps. Il y avait beaucoup de prophètes, mais beaucoup de faux prophètes qui... Je ne sais pas si je retrouverai le passage, c'est au chapitre 14, qui disait au verset 15, « C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel au sujet des prophètes qui prophétisent en mon nom, que je n'ai point envoyé, et qui disent « L'épée et la famine ne seront pas dans ce pays. » Jérémie avait un discours tout contraire. Il était seul et pour autant... Il s'associait au peuple. C'est cette première chose qu'on peut voir au chapitre 14, les versets qu'on a lus. Il, premièrement, au verset 7, reconnaît ses iniquités, les iniquités du peuple. Il ne les met pas de côté. Mais il implore, face à ses iniquités, le nom de l'Éternel. En son temps, Daniel a fait la même chose. On peut se poser la question, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui ? Est-ce qu'on n'a pas aussi cette pensée que s'il y a bien des choses autour de nous, peut-être qui ne sont pas heureuses ? On peut rappeler à Dieu qu'il a laissé dans des localités un témoignage. Qu'est-ce que c'est qu'un témoignage ? C'est le souvenir de sa mort. Ce matin encore, on l'a rappelé. Se souvient de la mort du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on ne peut pas rappeler cela devant Dieu ? Et puis simplement, cette deuxième ressource, du coup, au chapitre 15. En apparence, tout était noir pour Jérémie, rien n'allait à droite, à gauche, sa propre famille voulait le mettre à mort. Et pourtant, il avait trouvé l'allégresse et la joie de son cœur dans les paroles de l'Éternel. Le livre de la loi avait été redécouvert du temps de Josias. Jérémie a commencé à prophétiser à partir de ce moment-là. Il a trouvé dans ses paroles ce qui a été sa joie, ce qui a été son allégresse, quand tout semblait aller au plus mal. Et ces mêmes paroles sont encore des ressources pour nous. Premièrement, cette expression, je les ai mangées. Ça, même des enfants. Peut-être pas beaucoup d'enfants dans la salle, mais même des enfants le comprennent. À midi, le soir, quand vous mangez, ça ne se fait pas en deux minutes. Vous prenez le temps, on prend chacun le temps pour nourrir son propre corps. Pour la nourriture spirituelle, il faut aussi ce temps. Ça ne se fait pas en deux minutes. Si j'ose dire, c'est pas en lisant le calendrier de la bonne semence le matin qu'on va trouver... pour ainsi dire, la joie et l'allégresse pour continuer le chemin. Et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, ô Éternel. Je terminerai juste par ça. Pour un incrédule, la parole de Dieu, elle est fermée. Il n'y trouve rien. Pour un croyant, il y trouve toutes ses ressources, toute sa joie. Est-ce qu'on n'a pas dans cette pensée, dans cette expression, car je suis appelé de ton nom, ô Éternel, Dieu des armées, ce qui nous a été lu, dans ce qu'a cité Robert, le fait que nous avons encore la parole, et quand nous sommes un enfant de Dieu, nous avons l'Esprit, et l'Esprit révèle les choses profondes de Dieu. Que ces deux ressources, la prière, certainement dans l'humiliation, mais la lecture de la parole puissent être aussi des ressources dans nos temps.
Heureusement pour nous, nous avons affaire à un Dieu qui a une longue patience, une grande clémence, la tendresse, la force, la sagesse pour nous entourer d'un secours tout puissant. Je propose qu'on chante la première strophe, la quatrième et la deuxième du cantique 92.
Okay, don't.